faut, sire, c'est trouver le passage.
Et où est-il, ce passage? Ce célèbre passage que personne n'a vu?
Bonjour, dans le fil de l'histoire, on poursuit le récit de la grande exploration de Magellan en 1519. Le voyage de Magellan, succès ou échec? Dans les épisodes précédents, nous avons évoqué le départ d'Espagne de la flotte de Magellan en septembre 1519. Après une traversée difficile de l'Atlantique et les premières dissensions dans le commandement, la flotte fait une longue escale au Brésil. Le 27 décembre 1519, après deux semaines de douceur dans la baie de Rio de Janeiro, la Trinidad, le San Antonio, la Concepción, le Santiago et la Victoria lèvent l'ancre et reprennent leur route vers le sud en direction de l'Antarctique, où ils croisent des îles couvertes de loups marins et d'oiseaux qu'ils n'ont jamais vus. Magellan guette un passage qui pourra les conduire à l'océan Pacifique. Pour l'instant, sans succès, ce qui ne fait qu'accentuer la méfiance des officiers espagnols. Plus la flotte progresse vers le sud du continent américain et dans l'hiver austral, et plus il fait froid. Magellan décide alors d'hiverner dans un port naturel auquel il donne le nom de San Julian. « Nous demeurâmes là deux mois entiers sans jamais voir personne », écrit Antonio Pigafetta. « Un jour, dit-il, nous vîmes un géant qui était au bord de la mer, tout nu. Il dansait et sautait et chantait, et en chantant, il mettait du sable et de la poussière sur sa tête. » Il était si grand que le plus grand de nous ne lui venait qu'à la ceinture. Il avait un grand visage peint de rouge et ses yeux étaient cerclés de jaune. Aux joues, il avait deux cœurs peints. Il n'avait guère de cheveux à la tête et ils étaient peints en blanc. Les hommes de Magellan vont rencontrer et même capturer d'autres de ces pseudo-géants auxquels ils donnent le nom de Patagon, qui par extension donnera celui de la région, la Patagonie.
France Inter. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Magellan nous tient-il au courant de ses projets? Non, il n'ose pas. Il trame un complot diabolique. Et si nous ne le frappons pas maintenant, c'est la mort qui nous attend.
Oui, oui, pendons-le!
Mettons-le à terre, qu'il y pourrisse et rentrons! Nous sommes forts, les hommes sont avec nous, frappons tout de suite.
Pour le moment, ouvrez vos cales, nourrissez vos hommes, armez-les et soyez prêts. C'est pour notre honneur et pour notre salut que nous allons agir.
Le 1er avril 1520, alors que la flotte de Magellan vient de se réfugier dans la baie de San Julian et que Pigafetta découvre et observe les étranges autochtones, à l'arrière, en secret, une mutinerie se prépare. Le jour où nous entrâmes dans le port de San Julian, écrit Pigafetta, les patrons des autres navires machinèrent une trahison contre le capitaine général pour le vouloir faire mourir. Ceux-ci étaient ainsi nommés Jean de Carthagène, conducteur de l'armée, le trésorier Louis de Mendoza, le conducteur Antoine Colcha et enfin Gaspard de Quesada. Toutefois, précise Pigafetta, la trahison fut découverte. Pour ce, le trésorier fut tué à coups de poignard, puis mis en quartier. Le Gaspard de Quesada eut la tête coupée et après, lui aussi, fut mis en quartier. Et le conducteur, Jean de Carthagène, fut banni avec un prêtre et laissé en cette terre nommée Patagonia. La situation est donc grave puisque les trois capitaines espagnols de la flotte, sur cinq au total, ne voulaient plus obéir à Magellan. Michel Chandaigne, avant d'évoquer cette mutinerie, pour bien comprendre la situation, est-ce la première fois que des Européens descendent autant au sud du Brésil? Est-ce que ce sont des mers, des terres totalement inconnues?
Oui, c'est la première fois, même si le quatrième voyage de Vespucci laisse un doute. Vespucci dit être descendu très au sud, et il aurait reconnu un petit bout de côte, non loin du détroit. Mais c'est un voyage qui est sujet à caution. Mais en gros, sa terre est inconnue, elle figure sur aucune carte, et c'est vraiment l'expédition de Magellan qui va la dessiner en premier. Ils espèrent trouver un détroit. On est vraiment en mer inconnue et en terre inconnue.
Est-ce que c'est ce côté inconnu, justement, qui suscite une peur et qui peut éventuellement susciter cette mutinerie?
Oui et non, parce que en effet, on arrive dans des zones quand même très arides. Cette côte argentine, c'est un désert, c'est hostile, c'est pas des forêts luxuriantes,
oui.
Fait froid. Les hommes sont exténués quand même, ils sont inquiets, et les Espagnols sont là, clairement, pour remplacer Magellan, depuis le début. Juan de Cartagena est au fer hein, depuis des mois, hein. Il n'a pas quitté...
Être au fer, ça veut dire quoi?
Être prisonnier. Hein.
Il est enfermé dans une...
Il a des chaînes aux pieds, et donc il est... Et donc, c'est très facile pour les capitaines espagnols de lever une partie de l'équipage mécontent contre Magellan. Mais il faut bien voir quand même qu'une grande partie des Espagnols sont restés fidèles à Magellan, et notamment ce qu'on appelle le prévôt, c'est-à-dire le capitaine des gendarmes, Gonzalo Gomez de Espinosa, qui lui va retourner la situation en poignardant d'une manière audacieuse un des chefs des mutins. En une nuit, la situation va se retourner. Et les Espagnols vont se rallier à Magellan. Je dis les Espagnols parce qu'ils sont majoritaires, même s'ils ne sont pas les seuls. Il y a des Italiens, etc. Mais
il y a des punitions quand même très sévères.
Oui, alors c'est ça. Il y a
des hommes décapités, coupés en morceaux.
Ben, sévère, oui, non. C'est-à-dire une mutinerie, il y a 40 mutins qui sont condamnés. Il y a un procès. 40 mutins sur les 200 et quelques, c'est pas si énorme que ça. Un des chefs est décapité. Juan de Cartagena, il peut pas le tuer. C'est un grand d'Espagne, ses liens avec l'évêque sont tels que... Mais il va l'abandonner sur la côte en partant.
Oui, ça c'est terrible.
Avec
aussi.
Son confesseur. Oui, mais enfin, il le tue pas, il l'abandonne.
Il a une chance de survivre.
Oui, de se mêler aux Tehuelches. D'ailleurs, peut-être qu'il a fini sa vie avec les Tehuelches, on ne sait pas.
Les Indiens locaux.
Et donc, il en exécute qu'un et il amnistie les 40 autres. Donc, c'est plutôt clément. Il fait subir l'estrapade.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une sorte de saut à l'élastique, mais sans élastique, avec une corde, et la personne était plongée dans la mer, et puis on l'a relevée, ça s'était fait plusieurs fois. Il y a quand même trois hommes qui subissent l'estrapade, mais c'est quand même très clément. Et pourquoi ? Il aurait pu en tuer beaucoup plus, il aurait dû.
Il a besoin de ses hommes. Donc après avoir réprimé cette mutinerie, Magellan décide de reprendre la route vers le sud et poursuivre la recherche du fameux passage. Après avoir navigué et atteint le 52e degré du ciel antarctique, écrit Antonio Pigafetta, le jour de la fête des 11 000 Vierges, nous trouvâmes un détroit que nous appelâmes le Cap des 11 000 Vierges, lequel détroit est environné de fort grandes et hautes montagnes chargées de neige. Magellan alors envoie en reconnaissance deux de ses navires, le San Antonio et la Concepcion, pour explorer ce détroit. Deux jours plus tard...
Oh, c'est le San Antonio qui débouche du détroit.
Il tire des salves d'artillerie et il est pavoisé. C'est magnifique. Le détroit est découvert.
Et voici derrière lui la Concepcion. Elle aussi pavoisée.
Mon Dieu, le détroit est découvert.
À leur retour, en effet, la joie est immense. Ils nous dirent qu'ils avaient trouvé le cap et la mer grande et large. Magellan lui-même ne peut cacher son émotion. Alors, écrit Pigafetta, le capitaine général, de la joie qu'il eut, commença à pleurer. Et il nomma le cap, cap du désir, comme une chose bien désirée et de longtemps. Michel Chandaigne, cap du désir, c'est le nom donc qui convient, on peut le dire. Ça fait longtemps que Magellan désire ce cap ouvrant sur le Pacifique. C'était un sacré pari, très incertain.
Oui, alors le cap du désir, c'est le cap des Eado aujourd'hui. C'est le cap qui se trouve de l'autre côté du détroit.
Oui.
En effet, ils rentrent dans le détroit finalement assez facilement, et de proche en proche, les bateaux rentrent. La traversée du détroit est très facile. Et à un moment, ils descendent vers le sud, à un moment, le détroit bifurque vers la droite.
C'est un chemin sinueux. Hein.
C'est sinueux, mais ça se passe bien. Ils n'ont pas de courant contraire, les vents sont bons. Ils descendent très très vite, à vrai dire. Et c'est au milieu du détroit... Ils ont le sentiment que, disons, ça sent bon, hein, qu'on est toujours dans l'eau de mer, c'est sans doute un détroit, qu'un des bateaux décide de déserter. Et là, c'est le grand événement de cette traversée. Le San Antonio, ben, il y a un pilote qui est portugais, Estevão Gomes, qui va prendre le pouvoir et rentrer à Séville avec 55 survivants, 55 hommes. Il avait proposé ce projet, cette expédition, au roi. Donc il est furieux d'avoir été évincé.
Par jalousie.
Donc l'idée, c'est, on a découvert le détroit, je rentre à Séville, on va me donner une grande flotte, et là je vais le traverser d'un coup pendant que l'expédition de Magellan...
Oui, en faisant croire que c'est lui qui l'a trouvé.
Oui, ou dénonçant Magellan, ce qu'il va faire à Séville, de ses actes infâmes contre les capitaines espagnols. Il va complètement médire contre Magellan. Donc c'est son projet, ça va pas marcher, mais là il va déserter, il y a un gros problème. C'est le plus gros navire de la flotte.
C'est avec... celui qui transporte beaucoup de vivres.
Beaucoup de vivres, beaucoup d'hommes, et donc l'expédition est vraiment vouée à l'échec. Et donc ils vont se réfugier pendant deux semaines au milieu du détroit, dans la baie des Sardines, et là Magellan va demander leur avis, est-ce qu'on continue pas ?
Merci Michel Chandaigne. Dans le prochain épisode, nous évoquerons la suite du voyage de Magellan, l'arrivée dans le Pacifique, la difficile et interminable traversée de cet immense océan et la mort de Magellan, on le verra, tué d'une flèche empoisonnée sur une île des Philippines.